Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir et bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse d'RMC qui est proposée tous les samedis soirs après l'afterfoot par le diocèse de Monaco. Ce soir, je reçois l'écrivain et chroniqueur Jean Desancheron, qui est l'auteur de plusieurs livres, et le dernier, il s'appelle « L'éloge d'une guerrière » qui vient de paraître chez Grasset, le voici. Bonsoir Jean Desancheron.
Bonsoir Matteo.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre ouvrage est un essai biographique dédié à Sainte Thérèse de Lisieux, que je rappelle, c'est d'ailleurs l'une des saintes les plus présentes dans les cœurs des Français, parce que avec Saint Jeanne d'Arc, je pense qu'elle est l'une des plus représentées dans les églises de France. Donc c'est une personnalité qui est très liée à la vie de beaucoup de personnes, n'est-ce pas?
Oui, alors malheureusement, ce que vous dites est très vrai, était très vrai pendant une bonne partie du XXe siècle. Aujourd'hui, sa notoriété a beaucoup décru depuis quelques décennies, en dehors du monde catholique. C'est-à-dire qu'elle est toujours très connue chez les chrétiens, en particulier chez les catholiques pratiquants, qui continuent en effet de voir la statue de plâtre dans toutes les églises de France, et puis en dehors de France, hein. Quand on voyage, on voit la petite Thérèse absolument partout en Europe et même
je confirme.
De l'Atlantique. Oui, l'Italien que vous êtes, je sais confirme. De quoi je parle. En revanche, en dehors du monde chrétien, c'est vrai que sa notoriété a énormément décru, parce que je pense qu'elle était mal comprise, on va y revenir. Une personnalité qui est jugée un peu ennuyeuse, voire poussiéreuse ou mièvre. Contrairement à la figure de Jeanne d'Arc, qui continue à être très célèbre pour des raisons en partie historiques, évidemment.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que le titre déjà annonce la couleur, c'est-à-dire l'éloge d'une guerrière. Alors, on a une image de Sainte Thérèse de Lisieux, plutôt voilà bon enfant d'une sœur carmélite qui donc a passé sa vie finalement sa vie adulte entre guillemets dans un couvent en Normandie. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire cette jeune Normande pour devenir une guerrière? On pourrait dire rien.
Alors déjà, comme j'essaye de le montrer dans mon livre. Dès l'introduction, je ne crois pas que le terme que j'ai voulu employer de guerrière soit usurpé, inventé ou iconoclaste. Mais en fait, en me plongeant vraiment dans ses écrits, aussi bien dans ses manuscrits autobiographiques que dans sa correspondance, et même dans sa poésie, ce qui m'a sauté au visage, c'est que bien plus que les histoires de petites fleurs et toutes les choses qui font un peu petite fille, à quoi on la ramène souvent, le vocabulaire guerrier, martial est très très présent. C'est-à-dire qu'en permanence, elle parle du combat qu'elle a envie de mener, de la guerre qu'il faut mener ici-bas, du fait qu'elle est un soldat, etc. Et alors, évidemment, le livre, à travers l'exposé de sa brève mais très dense existence, parce qu'elle meurt à 24 ans.
Exactement, hein, de tuberculose.
De la tuberculose, et elle est rentrée au Carmel à 15 ans. Je raconte justement que son entrée au Carmel, d'ailleurs, a été un combat, parce que un combat en particulier contre sa propre famille.
Elle n'avait pas l'âge.
Ah oui, elle avait 15 ans. Et puis, un combat contre sa propre famille, qui s'opposait à son entrée très largement, contre la hiérarchie de l'Église aussi, qui lui demandait d'attendre des années supplémentaires. Mais elle a une pugnacité extraordinaire. Et en cela, elle est vraiment guerrière. Mais néanmoins, le grand combat de sa vie, hein, qu'elle expose et dont j'essaye de rendre compte à travers une foule d'anecdotes qui vont de sa petite enfance jusqu'à sa mort à 24 ans dans des circonstances très différentes, évidemment, parce que le décor dans lequel elle évolue et sa maturité aussi, c'est le combat de l'amour, en fait. C'est ce combat-là.
Mais qui était son ennemi principal?
Alors, c'est une question...
Facile et difficile en même temps.
Très difficile. que vous posez, parce qu'en fait, elle s'est pas toujours battue contre la même chose. Même si Balthazar, un grand théologien au XXe siècle, a dit que le grand ennemi de Thérèse de Lisieux, c'était le mensonge. C'est le mensonge qu'elle s'est battue toute sa vie. Je crois néanmoins que ce dont j'essaye de rendre compte dans mon livre, modestement, mais j'espère de manière suffisamment vivante et convaincante, c'est que, évidemment, son grand ennemi, comme pour tout homme ou toute femme, et en particulier tout chrétien qui a pris conscience de sa vocation à la sainteté, le grand ennemi, c'est le mal. C'est Satan, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Hein. Enfin, ça je n'invente rien. Hein. Saint Ignace de Loyola, il prend l'exemple du combat armé, en armure, des troupes du bien contre celles du mal. Donc, évidemment, il y a ça en fond. Chez Thérèse, qui a envie de combattre pour que règne l'amour sur cette terre, d'une certaine manière. Mais ce combat, il n'est pas flou. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat contre des anges invisibles.
On peut avoir une image, encore une fois, d'une bonne sœur carmélite avec une vie bien rangée dans un couvent de Normandie, je répète.
Absolument.
Et comment on peut combattre contre le mal si on est dans un endroit que c'est un peu une oasis de paix
On verra que le premier lieu du combat pour Thérèse, dans son enfance en particulier, c'est le combat contre la tristesse, le combat contre les scrupules aussi.
Parce qu'elle avait aussi des petites crises.
Contre l'hypersensibilité, ouais, absolument. Elle était difficile. Elle vit un moment de conversion très profond, très intense, à l'âge de 13 ans, quasiment 14. La nuit de Noël 1886, là, elle explique que vraiment, elle devient un soldat ce jour-là, parce qu'elle et là, elle gagne finalement le combat contre un certain égocentrisme ou un certain narcissisme. Donc, il y a aussi la part du combat contre elle-même, contre soi-même, qui est très, très important dans l'itinéraire de Thérèse, où elle identifie le fait qu'on ne peut pas faire le bien si on se recherche soi-même. La visée même de sa démarche pour être heureux, c'est paradoxal. Hein. Si pour être heureux, on cherche à se servir soi-même, on n'arrivera jamais à ses fins. Pourquoi ? Parce que Thérèse identifie que nous sommes faits, et donc qu'elle est faite, pour aimer. Or, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Sinon, un arrachement à soi-même pour le bonheur de l'autre. Et en fait, c'est en travaillant au bonheur des autres, En faisant en sorte que ceux qui nous entourent, alors son père, sa sœur à la maison, et puis une fois qu'elle sera au Carmel, les religieuses qui vivent avec elle au Carmel, soient heureuses, c'est ça qui, dans la logique de Dieu, nous rend heureux, parce qu'on accomplit ce pour quoi on est fait. C'est là-dedans qu'on va trouver la paix et la joie qui combleront notre cœur. Parce que c'est aussi une grande insatisfaite, Thérèse, et le cœur de son combat, ce sera pour une bonne part... De vouloir assouvir son désir. Elle a un immense désir de bonheur, de jouissance. Et or, elle voit qu'ici-bas, on est toujours déçu. Il y a toujours un échec où on tombe malade, on perd les gens qu'on aime, il se met à pleuvoir, je sais pas, enfin, je pense ce genre d'image, mais vous voyez, c'est marquant. Elle est faite pour le grand ciel bleu sans couchant. Elle parle souvent du ciel sans couchant. Et cette ténacité de guerrière, elle la gardera jusqu'au bout, précisément pour assouvir son désir. Qui ne pourra s'accomplir que dans l'exercice de l'amour.
Effectivement, elle avait une technique, vous dites, à la page 169 de votre livre.
Ah, je vois que vous avez lu au moins jusque-là, Mathéo, ça c'est vraiment bravo.
J'ai pris une note. vous écrivez que nous connaissons sa technique de Sainte Thérèse de Lisieux, se laisser traverser par l'amour de Dieu, se laisser consumer, juste à devenir elle-même l'amour de Dieu. Parce que finalement, Sainte Thérèse de Lisieux voulait... Comment dire, essayer de faire comprendre à ses proches, à son entourage, l'amour de Dieu.
Oui. Et donc, elle dit qu'elle veut devenir l'amour elle-même. Ça, oui. C'est quand même extraordinaire comme ambition, on pourrait dire, mais est-ce qu'elle est tombée sur la tête ? Parce que qui est l'amour ? C'est Dieu lui-même.
Parce que
Saint Jean nous donne cette définition, Dieu est amour, Dieu est amour. Et en fait, on pourrait dire c'est orgueilleux.
Finalement, il y a toujours cette question sur le fond.
Est-ce qu'elle se prend pour Dieu, Thérèse ? Non, je pense qu'au contraire, elle a pris conscience très profondément. C'est un génie théologique, Thérèse de Lisieux. C'est ça qui est génial, c'est que c'est à la fois cette guerrière de l'amour que j'essaie de décrire de manière très concrète dans les petites choses du quotidien. Il y a une multitude d'anecdotes que je peux pas résumer là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Non, Théo, malheureusement,
non. Et voilà. Mais des anecdotes souvent très drôles, très vivantes, parce que c'est ainsi qu'est sa vie. Elle est pleine d'humour aussi. C'est une fille vraiment merveilleuse. Mais en même temps, elle a réellement compris que nous n'étions faits pour rien d'autre que pour aimer et que ce que Dieu nous demande, précisément, c'est de devenir saint. Or, devenir saint, c'est quoi ? C'est accomplir sa vocation à être vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Et aimer.
Voilà. Donc ça n'est qu'aimer. Ça ne peut pas être autre chose, en fait.
C'est pas trop radical dans un monde où, dire que oui, tout le monde veut l'amour. Mais peut-être, est-ce qu'on sait de quoi on parle ?
Exactement. Alors, je pense aussi que Thérèse, non seulement c'est une grande théologienne, mais c'est aussi, pour une part, une assez bonne philosophe, en tout cas une très bonne psychologue. Et elle nous met sur la voie d'une définition juste et réaliste de l'amour. Justement, elle se perd pas en des idées désincarnées. C'est pas du tout une mystique hors sol d'une petite fille enfermée dans sa chambre serait en relation avec un Dieu invisible. Elle sait que l'amour est à vivre de manière radicale, comme vous disiez, mais dans les petites choses. C'est-à-dire que...
Alors justement, je lis encore un passage. Cette fois-ci, vous citez Thérèse de Lisieux. Et donc, qui elle parle des reproches endus...
qui lui sont faits, oui.
Par une sœur. Ouais. Parce qu'elles n'étaient pas toutes très sympas avec
Absolument.
Elle dans la Carmel. Et donc, elle s'est dit, bon, j'ai compris que je devais prendre la fuite devant cette attaque, entre guillemets, de la sœur.
Ah oui, elle dit qu'il y a, il y a un courage dans la
fuite.
Oui, oui, absolument.
Aussitôt pensé, aussitôt fait, je partis sans tambour ni trompette, laissant la sœur continuer son discours qui ressemblait aux imprécations de Camille contre Rome. Mon cœur battait si fort qu'il me fut impossible d'aller loin et je m'assis dans l'escalier pour jouir en paix des fruits de ma victoire. Donc, même dans les petites choses, comme vous étiez en train de dire, elle dit, bon, moi je ne veux pas rentrer dans une spirale de haine.
Voilà, absolument. Elle trouve toujours une technique dans les situations concrètes pour prendre le dessus sur ses passions mauvaises. On est tous traversés par des élans d'égoïsme, d'orgueil, de vanité, de jalousie. Thérèse, elle est très précise, hein, elle identifie ça très très bien et elle est très réaliste aussi. Elle est capable de voir aussi chez les autres ce qui n'est pas juste. Elle est pas du tout non plus dans un optimisme béat qui lui ferait croire que tout le monde est gentil. Pas du tout. Elle voit très très bien les défauts, ses défauts propres et puis les défauts des autres. Ce qui fait que la théorie de Thérèse, si on la met en œuvre, elle nous met pas en danger, par exemple, contre le fait de se boucher les oreilles ou de fermer les yeux sur les débordements
dans l'église, par exemple,
pervers de certains, par exemple.
Il y a eu des responsables hiérarchiques qui ont abusé des personnes faibles, abus sexuels, abus de spirituels aussi.
Spirituel, absolument.
Comment on peut recevoir justement le message de Thérèse de Lisieux dans ces perspectives ?
Je pense justement que il faut se rattacher à ce que j'essaie de dire, c'est que ce réalisme énorme. Thérèse, elle appelle un chat un chat. Elle est capable de dire quand une décision est mauvaise, lui semble injuste. Elle a résisté à la hiérarchie de l'Église quand la décision de la hiérarchie lui semblait mauvaise. Hein. Quand elle s'est battue contre le vicaire général, l'évêque,
elle est à Rome,
le supérieur civil, qu'elle est allée rencontrer le pape pour faire entendre
pour rentrer dans
ce qu'elle avait au fond d'elle. On voit bien que c'est une petite fille qui nous apprend à ne pas avoir peur. Des silences mortifères ou de l'enfermement injuste dans une hiérarchie qui nous tiendrait pieds et poings liés, quoi.
Ne pas renoncer à la justice.
Surtout pas.
Malheureusement, le temps à notre disposition est terminé. Je vous remercie, Jean de Saint-Chéron. Vous êtes l'auteur de L'éloge d'une guerrière qui vient de paraître chez Grasset.
Merci, Mathéo.
qui est un livre dédié à la vie, une biographie de Thérèse Delisieux. Et d'ailleurs, je rappelle que cette année, on fête aussi le jubilé de Sainte Thérèse, parce que on célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance et le 100e anniversaire de la canonisation à Lisieux. Donc, y a vraiment beaucoup de possibilités pour découvrir cette sainte, redécouvrir cette figure. Et est-ce que vous avez en synthèse un dernier conseil de Sainte Thérèse qu'on pourrait porter dans nos vies?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thérèse n'attend pas qu'on devienne des chrétiens orthodoxes pour nous parler, pour nous aider à aimer. Ses conseils sont très pratiques et peuvent être mis en œuvre par quiconque, chrétien ou non chrétien. Et d'ailleurs, mon livre s'achève par une évocation d'Édith Piaf. Mmh. Je laisserai au lecteur le soin de découvrir beaucoup, cette anecdote, mais qui aimait infiniment Thérèse de Lisieux. Ouais.
Merci beaucoup, Jean de Saint-Chéron.
Merci.
Et nous nous retrouverons la prochaine semaine, samedi soir, toujours après l'After Foot, avec l'Église d'aujourd'hui, l'émission proposée par le diocèse de Monaco sur RMC. Et vous pourrez retrouver cette émission aussi sur le site et sur l'application de RMC. Bonne nuit.
RMC Football. Samedi à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.